Les rendez-vous de midi sur Radio Circa 103.5. On rappelle tout d'abord le numéro du répondeur de Radio Circa, le 05 62 61 65 50. Et pour cette deuxième partie, on est avec Ben Hopper. Ben Hopper, c'est un artiste photographe israélien vivant à Londres et qui a travaillé sur une exposition Circle at Circa, dont il va nous parler. Bonjour Ben.
Hello, how are you?
Fine, and you?
I'm very good.
On a Visha qui va traduire aussi à ses côtés. Bonjour Visha.
Bonjour.
Et on a aussi une coordinatrice générale de la FEDEC, Daniela Jovic.
Bonjour
Daniela. Vous avez travaillé sur ce projet d'exposition Circle at Circa et vous nous en parlerez aussi puisque la FEDEC a travaillé dessus.
On a d'autres choses qu'on a fait, mais on va vous en parler. Je crois qu'avec Ben, on a une relation qui est complexe. Du coup, on a fait plein de choses.
Voilà. Très bien, on parlera de tout ça. Et pour m'accompagner, donc, j'aurai Laurent. Bonjour Laurent.
Bonjour à tous.
Et bonjour à tous. Ben, première question. Que pensez-vous de ce bâtiment, alors, puisque vous le découvrez cette année, comme tout le monde, quelle est l'atmosphère? Alors, comment vous sentez les lieux?
What do you think about the new building as you are discovering it? What is the atmosphere that you feel about it?
Well, to be honest, I just got here maybe 10 minutes ago, straight from the airport. But it's beautiful, and it's a little bit cold this year, I think. It looks pretty good, so I'm probably going to walk around and discover more. But it's really, really nice. It looks very impressive so far.
À vrai dire, je viens de descendre de l'avion il y a à peu près 10 minutes, donc j'ai pas vraiment eu le temps de voir tout dans son ensemble, mais c'est très joli. Et par contre, j'ai l'impression qu'il fait un peu froid cette année. Mais tout à l'heure, j'irai me promener et je découvrirai l'endroit un peu plus précisément.
Alors pour votre exposition, ça se passe à la maison du festival, juste en bas. On va y venir de suite à cette exposition Circle at Circa. Quel était le projet au début? Peut-être que Daniela Jovic peut répondre.
Oui, je peux répondre. L'idée, c'était d'inviter Ben comme un photographe professionnel qui avait déjà de l'expérience dans la photographie de cirque. La photographie, on va dire, de spectacles vivants en général, dont la danse, énormément d'influence dans le burlesque, avec aussi une touche artistique très orientée dans le mouvement. Donc ce qu'on aimait beaucoup dans son travail, c'était ça. Et donc aussi, par ses contacts avec Soco Space, avec son frère qui était à Carampa, voilà, on a commencé à travailler ensemble. Et son rôle aussi, c'est de couvrir en fait tous les circles qu'on a. Donc 10 spectacles cette année, les années d'avant 12. Et voilà, d'avoir des photos magnifiques qui sont un vrai outil pour nous et pour les jeunes, en fait, pour la promotion.
D'accord, on a placé le projet. Vous, Ben Hopper, vous avez découvert comment ce festival Circa, alors?
How did you discover the festival Circa?
My young brother was a graduate from Carampa School in Madrid and graduated in 2009, and he performed here as a part of the Circle shows for FEDEC, and I just came here to kind of support him, and ended up taking some photos of the show of Carampa and some other shows. And some just ended up having a little body of work, I contacted FEDEC afterwards and showed them the photos, and kind of suggested to them that maybe we can do it again but properly, so I take all the photos next year, and it became like a tradition. I just kind of ended up coming every year.
Mon petit frère était élève à Carampa, une école de cirque à Madrid, et du coup j'ai commencé à prendre des photos de lui, et ensuite j'en ai pris aussi à Circa, et donc du coup je suis rentrée en contact avec FEDEC, et on a décidé de recréer un projet similaire mais plus encadré de nouveau cette année.
Et il y a eu des retours et je vais passer la parole à Laurent de suite.
Oui, alors vous dites que vous êtes venu un peu vers Circa par votre frère, mais comment êtes-vous venu à la photographie?
You said you come to Circa because of your young brother, but how did you came to photography?
Photography came by an accident around 2007. I quit an office job and bought a camera and started taking photos. And my brother started doing circus, and a lot of my friends did performance, and I just ended up in circus and performance and dance just by chance. It just was easy to me to take photos, so I just continued.
Je suis arrivée au cirque grâce à mon petit frère et à la photographie un peu par hasard en fait. J'ai abandonné mon travail en 2007 qui était un travail de bureau et j'ai commencé à prendre des photos par goût et dans le cirque de fil en aiguille en fait, en rencontrant mon frère et ses amis et comme ça.
Et le trajet se fait naturellement donc de l'import-export jusqu'à la photographie. C'est quelque chose de totalement naturel.
Is it natural for you to come from import-export to photography? What? How did it goes on?
I think I've always wanted to do something with arts. When I was younger, since I was about 15, I played guitar, I played jazz and rock, and I always kind of messed around with Photoshop and graphics on the computer. And when I did the intense office work, I just realized that it's killing me, and I quit and wanted to do something creative. So photography just happened to be one of the things that I ended up doing, but it was very natural to me.
Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours voulu faire quelque chose d'artistique. Quand j'avais 15 ans, je faisais de la guitare et puis j'ai toujours fait du travail sur Photoshop, retoucher des photos, tout ça. Et du coup, quand je travaillais dans un bureau, je me suis rendu compte que ça m'allait pas du tout, que c'était beaucoup plus épuisant qu'enrichissant. Et du coup, je me suis tournée vers la photo et c'est là que j'aime développer ma créativité.
Laurent, peut-être une question?
Oui, alors, quelle est la spécificité du photographe de cirque? Quelles sont les difficultés particulières? Vous en parlez plus particulièrement? Vous avez commencé à photographier par le cirque, c'est ça? Vous êtes entré directement là-dedans.
What is specific about being a circus photographer? What is difficult about this particular discipline? And did you came to photo with the circus or otherwise?
Do you mean if I started doing photography with circus or okay? Circus photography. The main problem usually when you do live performance is just the light. It's very dark usually. That's the main problem. But with today cameras, it's easier because they're more advanced and they can shoot in low light. Otherwise. I don't really know if I can say that there's a difficult side to it because I just enjoy doing it, so it's not really difficult to me. It's just fun.
La première difficulté avec le cirque, qui est d'abord un spectacle vivant, c'est la lumière, parce que souvent c'est très sombre, les ambiances lumineuses. Mais grâce au matériel de photographie d'aujourd'hui, on arrive quand même à avoir des caméras qui photographient qui arrivent à photographier quand c'est très sombre. Donc finalement, on s'en sort. Et puis de toute façon, pour moi, c'est pas difficile parce que c'est ce que j'aime faire.
Il n'y a pas justement des problèmes de lumière par rapport aux projecteurs et tous ces genres de choses qui peuvent faire des contre-jours, enfin des choses comme ça.
There are many difficulties about lighting. How do you cope with them?
You just kind of it changes every time. You just adjust to what you have and basically you use whatever you got. Sometimes if the picture is too dark, the easy solution is just to make it black and white, and kind of screw it. So you kind of you enhance the light until after in Photoshop until it looks bad, but actually it looks good. So it's just whatever you can do with it.
On fait avec ce qu'on a, je me débrouille. En général, on choisit son point de vue pour que la photo ait l'air bien. Et s'il y a vraiment un problème de lumière, alors on la met en noir et blanc et puis on la retouche sur Photoshop suffisamment pour que le contraste soit si fort que finalement, de mal, ça devienne bien.
La photo du cirque et la photo circassienne, c'est une photo aussi du mouvement, c'est le corps en mouvement.
The circus photography is all about movement and how you actually catch the movement. What about it?
Same thing goes to the technical bit. It's just you just need to have an okay plus camera, a camera that can shoot in low light, and then the movement. The biggest problem is if you want to talk really technically about it, is noise reduction, because when you don't have enough light, the picture is very grainy. But now you have technology with cameras that you can shoot in low light, and there's not a problem, and you can shoot fast as well. So the movement is actually it's not blurry and it's sharp. So you just need to kind of find the right frame and then just wait for the moment and snap, you know, and then you get the movement sharp. It's actually quite technical. The real thing is to get the framing right, to get the person to be in the right shape inside the frame of the camera.
C'est toujours un peu comme la lumière en fait, puisque maintenant on a des caméras qui arrivent à photographier quand il fait très sombre, et on a aussi des caméras qui arrivent à photographier des mouvements très rapides. Donc du coup, il suffit de choisir le bon instrument de travail pour prendre la bonne photo, et ensuite il faut juste se mettre au bon endroit, bien cadrer son image et attendre le bon moment. Et grâce à cette nouvelle technologie, la photo sera ne sera pas floue et sera bien dessinée, quoi.
Quelles sont les photos dont vous êtes le plus fier? Est-ce qu'il y a des photos dont vous êtes particulièrement fier?
What are the pictures you're the proudest about?
It's a really difficult question. I think I have maybe about 5 photos that I think are good throughout the whole 5 years I've been photographing. I'm just trying to think which pictures are classic and timeless. So it doesn't matter what context you will see them, you will just look at them and they'll be mesmerizing, they'll be overwhelming. But in my opinion, I'm only starting to get these pictures slowly. So maybe in 10 years, I'll have 15 pictures. I don't know, it's really hard to say. I can show you them, but I can't describe them on the interview. But it's a combination of the right moment and the light and the person, and it's quite complex.
C'est une question très difficile à répondre. Pour l'instant, je dois en avoir environ 5, mais En fait, une bonne photographie, c'est quelque chose qui est classique et pérenne, et aussi une photo, quand on la regarde, qui est complètement fascinante. Et c'est beaucoup de travail d'arriver à capturer la bonne personne au bon moment, avec la bonne lumière. Donc peut-être que dans 10 ans, j'aurai réussi à en faire une quinzaine, mais pour l'instant, j'en ai que 5. Et je ne pourrais pas vous les décrire pendant l'interview. Je pourrais vous les montrer peut-être un jour. Et oui, c'est ça, il faut être au bon moment, dans la bonne lumière, avec la bonne personne.
Eh bien, on va faire une pause musicale. À vous la technique, donc.
Là où j'habite, c'est pas grand et pas bien luxueux, mais j'aime bien. C'est des apartés, au milieu, il y a une cour toute petite. Là où j'habite, les voisins sont jamais loin. Tous les jours, on se fait bonjour, et dans son coin, chacun s'agite. C'est sympa là où j'habite, bien côté cosmopolite. Un petit parfum d'Afrique, parce que parmi mes voisins, il y a une famille de Guinéens. Chaque fois que je les croise, c'est magique. Ils parlent français et malinqués dans leur boubou en bassin. La France d'en haut balance des phrases sur des bruits et des odeurs. Moi, je vois ces gens polis, travailleurs, presque toujours de bonne humeur. Le père a l'air de bosser dur et tard. Et le soir, ses enfants s'amusent dans la cour ou sur le trottoir. Ils ont des jeux de gamins et quand ils crient un peu trop fort, y'a la maman jamais très loin derrière. Elle leur fait signe de se taire. Là où j'habite, juste là où j'habite. Là où j'habite, juste là où j'habite. Là où j'habite, juste là où j'habite. Là où j'habite, il y a le voisin du numéro 3. Alors lui, c'est un cas emmerdeur comme pas deux et 100% gaulois. Il est debout bien avant le soleil, il voudrait qu'on fasse tous pareil. Du coup, dès qu'il se réveille, il fonce dans la cour sans prendre à nos oreilles. Allez debout, les sales nègres, je vous emmerde, bande de feignants. Et il frappe sur leur porte et il les insulte allègrement. Et personne dit rien, et moi non plus, forcément, parce qu'il est méchant. Ça, c'est sûr, c'est un cauchemar pour le voisinage. Mais si tout le monde le ménage, c'est qu'il a une maladie des méninges. On pourrait cogner dessus, ça le rendrait pas plus sage. Mais lui, pour qu'il le vire, il faudrait qu'il tue quelqu'un. Et quand je l'entends gueuler, des fois, je me dis qu'il va pas tarder à y venir. Mais les négros, comme il dit, entre chez eux et chez lui, le mur il est épais comme du papier. Et lui il a des insomnies, alors même la nuit c'est une teigne. Et eux ils subissent tout le temps ces conneries, et jamais ils se plaignent. Là où j'habite, juste là où j'habite. Là où j'habite, juste là où j'habite. Là où j'habite, juste là où j'habite. Là où j'habite. Là où j'habite, c'est petit, mais c'est pas ça le pire. Un jour gêné, le père Guinéen vient me voir avec un papier à me faire remplir. Sinon lui et sa famille, ils allaient devoir partir. Ben ouais, des papiers, ils en avaient pas assez pour rester en France et on les menaçait d'être expulsés. Ils avaient reçu un courrier de monsieur le ministre de l'Intérieur signé Nicolas en personne. Et Nicolas, dans son paplard, il emploie un ton autoritaire à faire peur. Et moi je me demande plus si ce gars-là a des rêves de dictateur. Nicolas, c'est au voisin qu'il demandait d'attester que les Guinéens étaient intégrés et qu'ils méritaient de rester. Moi, ça m'a fait penser au passé. À une autre époque, on avait demandé aux voisins de dénoncer. Ça avait fini avec des étoiles jaunes, mais c'est comme ça que ça avait commencé. Là où j'habite, juste là où j'habite. 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 Et puis un jour, mes voisins sont partis. Je les ai jamais revus, on les a ramenés en Guinée. Parce que de toute façon, les papiers à faire signer, c'était pour les recenser, pas pour qu'ils puissent rester. Mais le gars du numéro 3 est encore là. Il a plus de nègres à insulter, mais lui on peut pas le virer. Il est gaulois, il a des droits, pour lui il y a des lois. Là où j'habite maintenant ça craint, il y a toujours l'autre pour nous faire chier. Mais il y a plus de gamins dans la cour, plus de malinqués, plus de bazins. Elle est pas drôle mon histoire, elle est même triste mais elle est authentique. Et j'ai pas été la chercher bien loin, tout juste là où j'habite. Juste là où j'habite. Là où j'habite, juste là où j'habite. Là où j'habite, juste là où j'habite. Là où j'habite, juste là où j'habite.
Radio Circa 103.5, les rendez-vous de midi. On était avec Pasquale, là où j'habite. Maintenant, on va reparler donc de ce projet Circle at Circa et de cette exposition de Ben Hopper avec Julie Butier, peut-être, et Zoé Lacornerie. Alors, c'était quoi ce projet Circle at Circa ? Expliquez-le-moi et expliquez-le-nous.
Alors l'idée en fait c'est de permettre à des écoles FEDEC de présenter un projet en cours, une forme courte d'environ 20 minutes. Donc des écoles de l'Europe entière, voire même du monde, puisque cette année on a une école australienne qui viennent à Circa et qui présentent devant le public leur forme courte. Et c'est suivi toujours d'une discussion après la performance afin un peu d'échanger, d'évoluer et de faire travailler leur projet artistique.
Ouais, donc ce sont des écoles de cirque qui viennent éprouver leur numéro ici à Circa, c'est ça ?
Voilà, présenter un projet en préparation et apprendre et rencontrer tous les professionnels du secteur, se rencontrer entre différents pays, échanger au niveau européen et mondial. Et cette année, nous avons donc 10 écoles.
Et alors, ces écoles, vous les aviez rencontrées avant, vous les connaissiez avant ou c'est des surprises ?
En fait, les écoles sont tous des membres de la FEDEC, donc la Fédération Européenne des Écoles de Cirque Professionnels. Tous les ans, on fait un appel à projet. On leur dit, voilà, on va choisir 10 écoles qui veut participer. Et donc voilà, cette année, nous avons les 10 écoles qui ont préparé ça sur le long terme, sur 6 mois. Hein. Et ils arrivent là, un peu l'apogée de leur travail. Donc pour nous, c'est vraiment bien de les voir aussi. Et on espère que ça va plaire aussi au public.
L'idée, c'est que ces écoles-là trouvent un public et trouvent des professionnels, c'est ça ? Des oreilles, des
oui,
yeux.
Oui, voilà, c'est aussi des élèves.
Des metteurs en piste.
Voilà, c'est des élèves en première, deuxième, troisième année, ça dépend. Donc, ils sont vraiment encore dans leur processus pédagogique. Et l'idée, c'est de leur donner un peu un premier goût du secteur, un premier goût de la professionnalisation et de leur permettre de faire des contacts, de se rencontrer aussi entre élèves. Et oui, voilà.
Vous pouvez peut-être nous dire quand ces écoles se...
Alors, donc, comme j'ai dit, cette année, nous avons 10 circles sur 4 jours. Le lundi prochain, nous avons 2 circles, un à 16h30, un à 18h. 16h30, ça sera 40 pas d'Espagne et 18h, ça sera Vertigo. Le mardi, nous avons Balthazar à 14h30, Nika donc d'Australie à 16h30, et Rogelio à 18h. Vendredi, Doc, les Suédois à 14h30 et Piste d'Azur à 18h. Et jeudi, les 3 derniers, à 14h30, le Lido, à 16h30, Zofie, et à 18h, Flic d'Italie. Donc, plusieurs pays représentés.
Donc, le projet Circle, c'est tout un programme dans Circa. C'est
voilà,
un circle à l'intérieur de Circa.
Voilà, tous les ans, depuis 5 ans.
Et quel était l'intérêt d'amener un œil comme Ben, alors ?
De vraiment d'avoir... une iconographie après l'événement qui est extrêmement forte, qu'on peut s'en resservir toute l'année et valoriser le travail des étudiants en leur montrant aussi la beauté de leur performance et en leur donnant des outils de communication extrêmement forts. Et Ben fait toujours des images vraiment fortes qui sont proches du portrait. On voit vraiment le mouvement, on voit la beauté artistique du spectacle.
Oui, on peut les décrire ces images alors.
C'est toujours très dur de décrire une image avec les mots, il faut vraiment les voir. Elles sont sur le site de la FEDEC, aussi sur le site de Ben. Mm-hmm. Et ce sont vraiment des corps en mouvement ou des corps pris à un instant clé de leur spectacle avec aussi des très belles personnes. Donc c'est quelque chose de très esthétique, de très artistique et pour nous de très bon outil de communication.
Et alors comment vous choisissez les photos justement ?
Je vais peut-être passer le micro à Zoé qui s'occupe de la communication, qui pourra vous répondre.
Bonjour.
Donc Zoé de la Cornerie, chargée de communication donc sur le projet Circle.
Chargée de communication à la FEDEC en fait, mais donc.
Qui s'occupe du projet Circle donc.
En fait, je me suis occupée de l'organisation du projet Circle l'année dernière. Donc les photos exposées par Ben, c'était sur le projet Circle 2011. Et donc la question c'était
comment vous choisissez. Ouais.
Mais c'est-à-dire qu'en fait c'est des photos qu'on utilise dans plusieurs supports de communication toute l'année, sur le site internet de la FEDEC et dans les newsletters, et aussi pour tout ce qui est brochures, cartes postales, de présentation que vous trouverez ici à Circa. Et je comprends pas exactement.
Et pour
la
une exposition, l'exposition telle.
C'est pas la FEDEC qui s'occupe de la sélection des photos, c'est le photographe qui les choisit.
Bien sûr, ok.
Mais il y a une discussion, j'imagine. Ouais, voilà. Alors, comment il choisit les photos alors ?
How did you choose the pictures you used in your exhibition?
These pictures are from the circle shows last year. So I had quite a lot. I had probably hundreds. The idea was just to try to find the most the most striking images, anything that you can look at and think, wow, that's pretty much.
Donc les photos viennent du circle de l'année dernière. J'en ai pris des centaines, et pour les choisir, en fait, tout simplement, je me suis dit, il faut que ça soit des photos qui attrapent le regard. Donc à chaque fois, c'est des photos où vous les regardez et vous êtes obligé de penser, waouh.
Moi, j'ai une autre question par rapport au moment où vous prenez la photo. Est-ce que vous savez que ça va être une belle photo, ou est-ce que c'est après qu'on s'en rende compte?
How do you know do you know at the moment you're shooting the picture is going to be good or is going to be bad, or do you have to look at them afterwards to actually choose if it's a good or bad photo?
It's both. Sometimes you, especially in performance, it's just easier to take more pictures, so you take a lot of pictures. You take sometimes too many, because you end up taking maybe 500 pictures from one show. Because if someone is doing a movement, you're not sure where the movement is going to end, because a lot of these shows, it's the first time you see them. So you just take a sequence of photos. So it's maybe five pictures of this one sequence. Maybe one of them is good. Maybe one of them just missed a split second. So you don't know. Sometimes someone is doing one movement and you know right away, but sometimes you just need to look afterwards.
En fait, un peu des deux, parce que et surtout dans le spectacle vivant, parce que donc moi je prends des mouvements en photo et on sait jamais à l'avance où va s'arrêter le mouvement. Donc du coup, en plus avec les appareils modernes, on a la possibilité de prendre autant de photos qu'on veut. Donc en général, on prendrait 500 photos d'un seul spectacle, et puis après on choisit, et parce qu'on sait jamais où le moment va s'arrêter, et des fois une photo va être bonne et une demi seconde plus tard elle aura perdu toute sa magie, et puis des fois aussi on sait que c'est cette photo à cet instant là et c'est immédiat.
Dans l'interstice, je voudrais saluer des gens de la FEDEC qui sont partis et qui nous ont quittés, qui ont quitté ce bureau. Daniela Iliovic, Julie Butier et Zoé Lacornerie. Mais je voudrais venir sur ce quotidien de photographe de cirque. Alors, comment vit-on? Est-ce que c'est un métier à plein temps, photographe de cirque?
How is your everyday life? Is it a full-time job to be a circus photographer, or what do you do else?
I do other things in photography. Living in London, you don't have so much circus like you have in France or in Spain. It's not that developed. But I work on a lot of personal projects with performers. So I do quite a lot of personal work. Not what I do here, coming to photograph shows for, it's a job, you know. In London, I just work on my own stuff, more exhibition work.
Alors, je fais pas que de la photographie pour le cirque, parce que en tant que londonien, l'activité circassienne n'est pas aussi répandue qu'en France ou qu'en Espagne. Et du coup, je travaille sur d'autres projets photographiques avec des artistes, mais aussi sur du travail pour préparer des expositions de galeries, mais toujours en travaillant dans la photographie, mais pas seulement dans le cirque.
Donc la photographie et le cirque, c'est aussi voyager avec le cirque. Où est-ce qu'on voyage alors? Quelle est la géopolitique du cirque aujourd'hui?
So to be a circus photographer is also to travel with the circus. What's about circus geopolitics? I mean, like, where do you go to photograph some circus, and how, what's the place of circus worldwide?
I'm not really sure. For me, I do you know what? I don't really think about these things. It's just a circus fascinates me, and I just like the way it looks. And I think it's just impressive what people can do physically with their bodies, and I think it looks beautiful, the physiques of performers. So I don't really think we should do this because it may influence like that. I think it's just a cool thing to do. So, you know, if I get a chance to follow, I just do.
Je sais pas. C'est pas quelque chose auquel je pense, en fait. Pour moi, le cirque, c'est surtout quelque chose qui me fascine, et parce que c'est tellement beau de voir ces gens faire ça avec leur corps. Et du coup, je pense pas du tout au pourquoi du comment de cette photographie. Pour moi, c'est juste quelque chose de beau, et je fais des photos parce que c'est vraiment quelque chose d'agréable, et ça reste purement esthétique.
Merci Vifa, et merci à vous Ben Hopper, merci Laurent de m'avoir accompagné. On termine l'émission là-dessus, sur ce joli mot de la fin, et aussi sur une rencontre avec les membres de Circostrada qui a été enregistrée ici par Pêche. Vous pouvez retrouver Radio Circa sur 103.5, le répondeur 05 62 61 65 50. Et n'oubliez pas, c'est aussi sur Facebook et Twitter. Merci. Et puis donc, on retrouve Circostrada.
Johan Flock, bonjour.
Oui, bonjour.
Et Koen Alary de Belgique néerlandophone, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. Bonjour.
Alors, Johan Flock, toi, tu es à Hors-les-Murs, responsable des relations internationales et coordinateur du réseau Circostrada. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de ce réseau?
Oui, c'est un réseau qui existe depuis plusieurs années, qui a vraiment pris son essor en 2005. Et c'est un réseau qui rassemble à peu près 70 structures de 22 pays européens. Une plateforme qui ne s'occupe pas de production, qui ne s'occupe pas de diffusion, mais qui s'occupe de faire circuler l'information professionnelle au niveau européen, et qui a pour objectif de faire un petit peu avancer la cause des arts du cirque et également des arts de la rue. Donc le travail de la plateforme, au-delà de la circulation de l'information, c'est de faire remonter beaucoup d'informations professionnelles au niveau européen, aux institutions européennes, donc à la Commission, au Parlement et aux États membres.
Et je vais demander, Koen, toi, de présenter la structure dont tu es directeur, le Circuscentrum en Belgique néerlandophone.
Le Circuscentrum, c'est le lien entre la politique du gouvernement flamand et tout le champ de cirque. Et c'est vraiment notre but de développer le cirque en Flandre, mais aussi d'exporter le cirque flamand en Europe, quoi.
Donc ça veut dire que vous soutenez des compagnies, des projets de compagnies, vous soutenez la formation, vous êtes producteur de spectacles et diffuseur de spectacles?
Non, nous ne sommes pas producteurs ni diffuseurs, mais nous avons des studios où les compagnies peuvent venir créer. Nous sommes dans un certain projet européen et nous avons notre propre magazine sur 4400 exemplaires, Circus Magazine. Donc il y a tout, nous sommes responsables pour le réseau des écoles de loisirs. On a 25 en Flandre. Par exemple, nous organisons une stage ESAC où les jeunes qui veulent entrer les écoles Eux, ils suivent un stage avec les profs de l'ESAC. Donc, il y a trop de travail.
Mais on ne va pas se plaindre pour le cirque en Flandre, alors?
Non, pas du tout, parce que moi, je suis sûr et certain que le cirque en Flandre, ça bouge, ça, c'est en plein développement avec des artistes très, très, très intéressants.
Notre troisième invité, c'est Sarka Marsikova de Prague, de Cirkeon. Bonjour, Sarka.
Bonjour.
J'aimerais bien que tu nous dises quelle sorte de structure, de quelle sorte de structure tu es directrice.
So Cirkeon, it's a Czech contemporary circus center. It is an umbrella organization for development of contemporary circus in this area, because in Czech Republic, the contemporary circus it is not like in France. You know, it's really we are at the beginning. So yeah, that's it. Translation.
Oui, je vais traduire les propos de Sarka. Donc Sarka travaille à Cirkeon. Elle coordonne ce projet qui est un centre pour le développement des arts du cirque en République tchèque, qui est basé dans un quartier en pleine expansion. Et c'est un centre qui travaille beaucoup pour la structuration du secteur cirque. Alors Sarka rappelle qu'en République tchèque, le cirque est moins développé que dans d'autres pays, et notamment la France. Donc elle est en train de participer au début de l'histoire du nouveau cirque en République tchèque.
Alors comme Kuhn, il y a beaucoup de travail. A lot of work.
Yes, it is. But it's really important, you know. So just we are organizing workshop. And we are bringing, you know, like artists from abroad come to Czech Republic, so everything grows. And the thing is that the things are moving now really fast, and yeah, so that's great. So
Sarka explique que Cirkeon est investi de missions qui sont très larges. Ils accueillent des artistes étrangers, ils organisent des ateliers de formation, des workshops avec des artistes, essayer de proposer aussi dans l'espace Cirkeon un espace d'entraînement pour les artistes locaux pour qu'ils puissent continuer à s'entraîner et aussi à améliorer leur niveau technique. Et tout bouge assez vite. Donc Cirkeon fait partie de plusieurs réseaux, est assez actif. Et si je peux compléter les propos de Sarka, ils font partie de projets notamment sur l'éducation avec des partenaires européens. Ils vont être partenaires de l'édition Circus Next aussi, qui s'annonce. Donc un grand développement, ça grouille, ça bouge, ça bouillonne. Voilà.
Et alors on n'a pas présenté, Johan, la structure dont tu fais partie, Hors les Murs, le Centre National de Ressources pour les Arts de la Rue et les Arts du Cirque. Tu dis deux mots sur ces missions ?
Bien sûr. Hors les Murs, donc c'est le Centre National, c'est un centre de ressources qui existe depuis presque 20 ans, on va fêter le 20e anniversaire de la structure l'année prochaine. C'est un centre d'information, un centre où on collecte toutes les informations du secteur, on les traite, on les diffuse. C'est vraiment un point central qui fait aussi partie de la politique culturelle française, qui se situe un petit peu entre les secteurs, les opérateurs, les compagnies et les puissances publiques, le ministère de la Culture qui est vraiment subventionneur, tutelle, qui fait partie de notre conseil d'administration. Hors les Murs a pour vocation vraiment d'aider à la structuration et au développement des secteurs, de ces deux secteurs, rue et cirque, en utilisant un outillage qui est très vaste, très complet, qui va d'édition numérique, d'édition papier, notamment avec le magazine Strada, mais qui aussi développe beaucoup d'activités de conseil, de formation, de journées d'informations sur des données, je dirais, techniques ou administratives, fiscales. Et puis, nous avons un centre de documentation qui est assez important, qui est très fréquenté à la fois par des étudiants, par des chercheurs, mais aussi par des artistes et par des programmateurs qui viennent, je dirais, se ressourcer dans notre centre d'information. Le centre d'information est assez en pointe sur toutes les questions de numérisation. On a fait partie, lancé de nombreux programmes pour faire faire en sorte de collecter et conserver la ressource et la conserver vivante, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle soit exploitée, visible et valorisée. Or, les murs participent aussi à la création de, on dirait, à l'histoire du cirque contemporain.
Alors, on va en revenir à Cirque Ostrada. Est-ce qu'on peut dire, parce qu'il me semble que Hors-les-Murs est à l'origine de Cirque Ostrada. Cirque Ostrada, c'est pas un Hors-les-Murs à l'européenne.
Non, Cirque Ostrada, c'est vraiment partie d'un besoin. Il y a quelques années en Europe, il y avait peu de centres d'information, voire pas du tout de centres d'information qui étaient dédiés au secteur. Et beaucoup de compagnies étrangères et d'opérateurs se tournaient assez naturellement vers Hors-les-Murs pour trouver de l'information, pour utiliser aussi cette boîte à outils qui était Hors-les-Murs. Et puis, à la fin des années 90, une douzaine d'opérateurs européens ont participé à un travail qui a été fondateur, qui a été l'édition d'un guide des festivals européens. Donc, Fabien Odoren en Belgique flamande, Ute Klassen en Allemagne, la DIBA, c'est-à-dire l'organisme public catalan, ont participé à l'élaboration de ce travail qui a été une première pierre à la fondation de Cirque Ostrada. Et puis, le réseau c'est un peu structuré tout en voulant rester assez informel. On se rend compte, et les professionnels qui font partie du réseau voient la valeur de pouvoir se retrouver régulièrement et échanger des informations qui ne sont pas toujours des informations artistiques. C'est aussi des informations sur un contexte politique local pour discuter de projets. Donc, Cirque Ostrada est aussi un incubateur, c'est-à-dire c'est un endroit où des partenariats entre pays vont naître. Donc on voit beaucoup de projets européens qui sont même maintenant soutenus par la Commission et par le programme Culture, qui sont nés d'échanges divers et variés dans Cirque Ostrada, des moments informels, des moments on va voir un spectacle ensemble, on boit des cafés, on se retrouve autour de la table pour discuter des artistes qu'on suit, mais aussi de ce qui manque dans les secteurs. Donc ça peut être de l'outillage, de la mobilité, comment on fait pour proposer de la mobilité. En ce moment, Kuhn et le Circus Centrum à Gand pilotent un projet sur la critique, par exemple. Donc comment les journalistes culturels peuvent s'intéresser de plus en plus au cirque contemporain, et comment on en parle, comment on écrit sur le cirque, comment on rencontre des spectacles. Donc, Cirque Ostrada, c'est un peu une grande boîte avec plein d'outils et un endroit de rencontre, en tout cas très chaleureux, je pense. Tout le monde est assez heureux de se retrouver. Et puis, des organisations veulent rejoindre le réseau. Donc, c'est un réseau qui grandit avec en douceur, on va dire, sans à-coup, avec beaucoup de fluidité et de bienveillance, en tout cas avec les nouveaux entrants, qui sont souvent de jeunes organisations qui arrivent dans Cirque Ostrada pour apprendre beaucoup, apprendre du contexte européen, apprendre sur des stratégies de développement des publics, pour apprendre sur le marketing, pour apprendre les nouvelles formes esthétiques aussi qui émergent aux quatre coins de l'Europe. Donc une plateforme intéressante.
Et alors comment Sarka Marsikova, par exemple, on adhère à Cirque Ostrada et comment on l'utilise?
We are members for free now 4 years, and I don't know how, we just send an email 4 years ago to Johan that we would like to come for the first meeting and to see what's happened, and it was for us something amazing that we can be in this network, just to be part of this platform. And for us in the beginning it was really crucial because we were not isolated, and for us to be a Cirque Ostrada member is it's a great opportunity, it's a fantastic opportunity to find partners for European projects, to just share information that we can inform what's happened in Czech Republic, because it is interesting for another partners, because they can't know what's going on in our country, and for us it's very interesting to see the development in our countries. It's completely different in Sweden, in the UK, in Belgium, in France. So it inspires us a lot. And thanks to Circo Strada, now we can do what we are doing. So we are partners in two European projects right now, and we are preparing like new. It's really very it's alive, and that's fantastic. So it's really easy to join to Circo Strada. It's I don't know if I understood the question well at the end.
Donc Circéon est membre du réseau depuis à peu près 4 ans et l'organisation a rejoint le réseau à un moment où elle naissait, où elle commençait son activité, et donc pour eux ça a été une opportunité incroyable, un accélérateur en fait, parce que tout à coup on se retrouve à côtoyer des organisations qui sont beaucoup plus installées et qui viennent de pays où les choses sont beaucoup plus structurées, hein, les réseaux, le nombre de compagnies, les écoles, etc. Donc c'est à la fois récupérer énormément d'informations et puis d'exemples du terrain, de comment les choses se sont passées, et de pouvoir trouver l'inspiration et l'énergie une fois rentré en République tchèque pour réinjecter toute cette matière au niveau national, au niveau local. Et puis c'est aussi une grande valeur pour le réseau, puisque Circéon apporte aussi des informations sur la réalité de la République tchèque, la réalité, les compagnies qui sont là-bas, où on en est en termes de développement. Et du coup, c'est très utile pour les autres membres de Circo Strada d'avoir tout à coup une fenêtre sur une réalité d'un territoire européen qui n'est pas forcément plus proche. Charka rappelait que il y a des exemples de développement qui sont très différents dans les pays. Donc le développement en Suède, ce n'est pas le développement anglais, ce n'est pas le développement français. Mais du coup, tous ces exemples-là nourrissent quelque part l'organisation et aident à créer une vraie connaissance qui se partage. Elle rappelait que Circéon fait partie de deux projets de coopération européens. Donc en termes de partenariat, il y a un vrai boost qui existe. Et puis, il y a beaucoup de coopération informelle, et ça, c'est très important. Donc, il y a un vrai échange avec beaucoup d'organisations.
Même question pour toi, Kuhn. Comment on utilise cette boîte à outils, ou comment tu as découvert cette boîte à outils?
Je l'ai découvert assez tôt, tout au début. Un collègue m'a dit, c'est quelque chose pour toi, parce que... Moi, j'étais, dans le temps, je travaillais pour un centre culturel, un des plus grands en Belgique. Et j'ai assez tôt commencé de programmer du cirque dans ce centre culturel. Il y avait un collègue qui était membre de Circo Strada qui m'a dit « Tu dois y aller ». Et je suis tombé amoureux de tous mes collègues, et on fait des bébés, des projets européens, on travaille ensemble. Parfois ce sont des projets assez à base, parfois ce sont des projets énormes, mais il y a aussi des séminaires. Circo Strada organise Fresh Circus, mais ça c'est une question pour Johan, mais ça rassemble les gens de partout du monde, quoi. Et maintenant, il y a même des demandes d'Australie ou de Canada pour devenir membre. Donc, ça veut dire que c'est assez intéressant. Pour moi après chaque réunion Circo Strada, je suis nourri. Et j'ai plus de travail. Ça, c'est toujours aussi quand on rentre à la maison, que t'as plein d'idées. C'est un peu trick sharing, comme les circassiens, eux, le font. Donc, pour moi, c'est le réseau le plus important pour le cirque contemporain, pour les organisateurs, parce qu'il n'y a pas d'artistes dedans. Et ça, c'est un choix. Ça, c'est vraiment un choix, qu'il n'y a pas de compagnie ni d'artiste dedans.
Alors, ce choix-là et d'autres choix certainement de programmation de réunions, d'axes de travail, il faut bien les faire. Alors, Johan, est-ce que c'est toi le coordinateur du réseau qui fait ça ou est-ce que c'est, ce sont des décisions collégiales de choix d'axes de travail ?
Non, c'est collégial et c'est très important que ce le soit. Le réseau, la définition d'un réseau, c'est les membres qui le composent. Et ça, c'est très important, que tout le monde se sente à égalité, même si parfois on vient d'organisations qui sont moins riches ou de pays qui sont plus éloignés. Mais l'idée du réseau, c'est vraiment d'être tous à égalité. Et ça, c'est très important. Aussi en termes de prise de décision. Donc, ce n'est pas moi, en tant qu'ordinateur, qui vais imposer des thématiques ou un travail ou un calendrier, même de réunions dans des pays. Je crois que les membres apportent, ont envie, par exemple, de faire venir le réseau à tel endroit parce que ça a du sens. Donc, si on est à Auch aujourd'hui, c'est parce que Circa est membre de Circo Strada depuis très longtemps, que Marc Fouillant a partagé tout son travail et ses connaissances avec les membres du réseau, qu'il a, quelque part, les membres ont accompagné la naissance de ce lieu de loin et se sont réjouis de cette superbe opportunité et que tout le monde avait très envie de venir célébrer ça aujourd'hui ici à Auch et de célébrer les 25 ans de ce festival qui est tellement important pour le cirque en Europe. Donc, pour vous donner un exemple, la prochaine rencontre Circo Strada va se dérouler fin mai 2013 à Bratislava, dans le cadre d'un tout petit festival qui vient d'être créé, qui va avoir en mai sa troisième édition seulement, qui est un festival qui se déroule dans le centre de Bratislava, porté par des bénévoles, par des personnes qui croient dans le cirque et dans les arts en espace public, qui se donnent à fond les moyens de pouvoir développer ces secteurs pour donner accès aux citoyens de Bratislava à ces nouvelles formes qui sont assez peu connues là-bas. Et donc le réseau a envie de soutenir cette initiative et donc décide de se réunir là-bas, d'apporter une visibilité, de soutenir ces opérateurs qui ont besoin aussi d'un réseau comme celui-là pour asseoir leur légitimité auprès de leurs financeurs, auprès de leurs partenaires locaux ou nationaux, auprès de leurs politiques. Donc on a toujours cette idée d'être utile quelque part les uns aux autres. Donc toutes les actions sont un peu basées sur ce principe-là. On discute ensemble, on a le temps en plus de le faire à chaque fois que l'on se retrouve, de parler des sujets chauds, brûlants, des enjeux qui traversent l'Europe, et donc de décider ensemble quels vont être nos axes de travail pour les mois ou les années qui viennent. Une autre initiative, un autre exemple que je peux vous citer, c'est l'organisation de rencontres pour les décideurs politiques, les administrations des ministères de la culture ou des Arts Council. Donc tous les membres ont ressenti le besoin de faire circuler l'information professionnelle auprès de ces décisionnaires clés. Et donc, on a commencé à faire se rencontrer ces administrations. On a fait un premier séminaire à Londres, un deuxième à Paris. Il y en aura un troisième en Belgique flamande. Et à chaque fois, c'est un gouvernement qui est co-invitant, qui invite ses collègues de travail, entre guillemets, de toute l'Europe, à venir discuter des politiques culturelles dédiées aux arts de la rue et aux arts du cirque et des dispositifs qui sont mis en place. Et on se rend compte de l'impact et de l'efficacité de ces rencontres. Donc on essaie à chaque fois de créer des outils ou des formats qui sont adaptés à nos objectifs et de faire en sorte de les tester et puis de les renouveler si nécessaire régulièrement.
Alors c'était une de mes questions justement, le contact avec les décideurs politiques. Et en gros, ceux qui décident de politique et ceux qui donnent des sous hein, aux structures, c'était de savoir, comme Kuhn le disait, Circo Strada n'est pas un réseau dans lequel il y a des artistes, mais le poids des artistes et le dynamisme des compagnies est quand même certainement un critère qui doit parler à ces décideurs politique.
Oui, complètement.
Alors, j'allais passer la parole à Kuhn, mais je la laisse à Johan, c'est ça ?
Non, non, mais tu vas compléter Kuhn sur ce point-là. L'artistique est au cœur, évidemment, du réseau. Enfin, on est tous là aussi, je pense, toutes les organisations, parce qu'on a, on vibre pour l'art en espace public et pour le cirque de création. Je crois que la question est... Enfin, voilà, la réponse est évidente. Et puis, je pense que tous les opérateurs ont à cœur de défendre les intérêts des artistes. Et ça, c'est aussi très intéressant que des opérateurs, des lieux de création, des festivals, mais on a aussi des centres d'information, on a aussi des fédérations d'artistes qui sont présentes dans le réseau. Donc, des plein de catégories de membres qui sont différents, mais qui ont tous à cœur de défendre l'artistique et de défendre les valeurs du cirque et des arts de la rue et de porter haut les couleurs de ces secteurs auprès des politiques. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est quelque part, c'est vrai que dans le réseau, il n'y a pas de compagnie artistique. Je pense que tout le monde serait gêné que ça devienne un marché où des compagnies essaient de vendre des spectacles ou des opérateurs essaient de négocier des tournées, etc. Ce n'est vraiment pas le but de Circo Strada. Mais en tout cas, tout le monde a cœur de défendre les artistes, leur production, leur travail, leurs conditions de travail, les outils qui sont disponibles pour eux, pour les aider dans leur travail, à trouver des financements, à trouver des bourses à la mobilité, à trouver des subventions au niveau local et national. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, je crois, tout le monde est complètement au diapason.
Tout le monde est convaincu que le travail artistique, ça, c'est le plus important, quoi. Mais ce n'est pas un réseau de diffusion, on ne parle pas de spectacle.
Bien sûr, ma question c'était juste quand on va parler avec des politiques, vous parliez de bouillonnement tout à l'heure artistique, c'est bien ça quand même le moteur.
Oui, c'est le moteur, et puis c'est ce qui permet au secteur de se développer, c'est toujours ça. S'il n'y a pas d'artistes, s'il n'y a pas de création, s'il n'y a pas de compagnie et de personnalités qui sont investies et qui veulent franchir les haies et les obstacles, on n'existe pas, nous on n'est pas là.
En France, on a peut-être une situation particulière vu l'histoire du cirque contemporain, et on voit qu'avec le lieu ici, le cirque, ce nouveau lieu, peut-être que le cirque actuel est très très bien ancré maintenant dans le paysage culturel. Mais je voulais savoir si, en République tchèque par exemple, la perception des politiques vis-à-vis du cirque contemporain et des arts de la rue était quelque chose d'acquis.
Yeah, like now it's a time of crisis, and so the politicians try to cut all budgets. So it's not only about circus and street art, but we are in a discussion with politicians more about life art right now. But circus, contemporary circus, there are no special grants only for contemporary circus or something like this. So, it is really new, something new in Czech Republic. Contemporary circus is somewhere, and street art also, it's somewhere between theater and dance. So, we're just trying to talk now with them that this is something a little bit different, and it needs a little bit different conditions for work. So, yeah, it's not organized in the structure. We are somewhere in between theater and contemporary dance. But it is recognized, which is great, and they are supporting street art and contemporary circus somehow, how they can. This is for all life art now everywhere, I think it's a little bit hard time, but yeah, that's why we need to talk with them more, and we need to be more in touch, with officers, with politicians. Then we have to explain that this is not only that we are not only asking for money, this is not a question of this, we are offering something really special, what is what 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 uh all cultural life or everybody somehow needs, and how it is good, why they should support live art. So the circus, for us, we are, of course, advocating contemporary circus and street art. But this is the question. So I think for now is the time just to explaining and to talk with them more than before. It's really important, and it's fantastic that we've got this European, or now more than European, platform, because we can share experiences how to get them, or the European platform can support us somehow, you know, because when we say that yes, but you can see that we are part of this European platform, they trust us and it can work somehow. That's powerful, you know. So we are pushing it, and from the Europe, it's another pressure. So it moves somehow. That's great. I'm sorry.
Alors, Johan va tenter une synthèse.
Une synthèse de traduction. Non, Sharka, commencez par rappeler, c'est vrai, un fait qui est important, c'est qu'il y a une crise. Une crise qui est vraiment, qui traverse toute l'Europe et qui entraîne des coupes budgétaires dans beaucoup de pays, et notamment en République tchèque, mais pas seulement. Et donc, la question qui se pose en ce moment, c'est vraiment la défense du spectacle vivant de manière transversale, hein, de manière générale dans le pays. Et donc, Cirkeon et d'autres organisations de République tchèque sont dans ce dialogue avec les institutions pour expliquer qu'il faut conserver du soutien pour les arts et la culture, et en particulier pour le spectacle vivant, dont les arts de la rue, les arts du cirque font partie. Donc c'est vrai qu'il y a une reconnaissance qui existe en République tchèque, qu'il y a des subventions qui sont données à ces secteurs, même si elles ne sont pas dédiées. Il n'y a pas de bourse spécifique pour le cirque ou les arts de la rue, mais malgré tout, Sharka disait, le cirque et les arts de la rue se situent entre la danse contemporaine et le théâtre. Donc la reconnaissance existe. Malgré tout, il faut continuer, et surtout en période de crise, à intensifier le dialogue. Il faut qu'il y ait un vrai dialogue avec les institutions pour que ces secteurs, qui sont très émergents, hein, pour le coup, en République tchèque, ne soient pas éliminés au nom de coupes budgétaires et de crises. Donc il faut continuer à avoir un dialogue. Ce dialogue a aussi doit avoir lieu pour une raison, je dirais presque de reconnaissance de la valeur des arts et de la culture. Sharka a rappelé que il faut aussi toujours argumenter sur la nécessité qu'il y ait du spectacle vivant et un soutien public au spectacle vivant. Donc on est aussi dans ce genre de discussion là. Ça dépasse les arts de la rue, les arts du cirque, mais que les arguments, il faut sans cesse les répéter, rappeler la valeur pour les citoyens, pour les habitants d'une ville, d'avoir accès au spectacle vivant et à ces formes nouvelles, ces formes émergentes qui sont importantes.
Et l'importance de l'aspect européen pour être notre canal, si j'ai bien entendu le mot, de pression un petit peu sur le contexte national.
C'est ça, le fait de faire partie d'un réseau européen et d'avoir un soutien, je dirais, légitime beaucoup de démarches et légitime le dialogue. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un peu isolé chez soi en train d'essayer de parler à de grosses institutions qui doivent gérer des crises et des coupes et tout un secteur du spectacle vivant, c'est vrai que tout à coup, on a un peu plus de poids dans ce dialogue qui du coup se trouve un peu rééquilibré, on va dire. Et le fait que cette pression soit aussi européenne, c'est-à-dire que quelque part tout le secteur culturel européen soit engagé dans des dialogues avec les institutions nationales, locales, mais aussi européennes, ça aide les opérateurs locaux.
Par exemple, le festival Circo Circulo aux Pays-Bas, il y avait des coupes énormes, et notre réseau a réagi. Et là, ils ont refait leur décision. Donc, ils avaient de nouveau leur subvention. Et moi, je suis vraiment convaincu, sans tout le soutien de tous nos collègues, c'était pire que maintenant. Donc, nous sommes un peu un syndicat.
Pas du crime.
Pas du crime. Vraiment un syndicat de cirque.
Pour terminer, peut-être parce que je sais que votre temps est précieux ici, vous avez eu 3 jours de travail relativement intense, je suppose. Un mot de la fin pour dresser peut-être un mot de la fin chacun pour dresser peut-être un panorama du futur proche et du travail que vous avez à faire. Voilà, tous, chacun.
Là, pour Circo Strada et tous ses membres, il y a un travail qui commence et qui est à la fois passionnant et un petit peu angoissant malgré tout. C'est le programme européen Creative Europe. Donc c'est la nouvelle génération de programmes européens qui va soutenir la culture, qui est en cours de négociation auprès des institutions, donc au Parlement, au Conseil de l'Europe, où siègent tous les États membres, et à la Commission européenne. Et c'est un programme qui est très important. C'est un programme qui n'a pas beaucoup de moyens, mais malgré tout qui facilite énormément la coopération dans le secteur culturel au niveau international. Et donc, tous les membres, Kuhn rappelait, ainsi que Charka, le grand nombre de projets dans lesquels les organisations sont actives, ou ont designé, et qui reçoivent de l'argent européen. Et donc là, le défi pour Circo Strada et ses membres, c'est de réfléchir comment ce programme Creative Europe, qui a un grand changement de paradigme, va continuer à servir le développement des arts de la rue et des arts du cirque. Donc on a un grand travail sur Creative Europe.
Merci beaucoup, Sarka. Peut-être tu peux nous dire quel va être ton travail, les activités de Circeon, les mois et les années à venir, peut-être.
Yeah, now just we are. It depends. The activities depends of support we will receive or we don't. I don't know. We will continue in our work, just trying to do more. It's hard to say it in a few minutes because we really don't know. We have to talk about it because we are talking about 5 years. So for sure we will continue and we will work more.
Sorry. Pour traduire, Charka dit c'est difficile de répondre en quelques minutes là sur la question, mais l'idée c'est de continuer à travailler ensemble sur plusieurs années pour Circeon en tout cas de continuer un travail de longue haleine qui est fait de plein de petites actions mais qui mises bout à bout font beaucoup de travail
dans un contexte mouvant si j'ai bien compris.
Yeah, now we have to react for the real the situation, so the future is now, I don't know, what do you just...
Futur est incertain, mais très beau, j'en suis sûr. Et Kuhn, alors, le cirque en Belgique néerlandophone, il y a encore des sillons à tracer.
Oui, moi je veux conquérir la France avec notre cirque. Non, je pense qu'il y a quand même une manque que le cirque n'est pas assez reconnu comme discipline d'art, quoi. Et on doit se battre en Flandre et en Belgique, que les bobos culturels, eux, ils vont reconnaître le cirque comme discipline d'art. En plus, et ça c'est pour tous nos collègues, il y a la crise et les esprits des gens, aussi des politiciens, sont en train de s'enfermer. Et le monde du cirque, l'univers du cirque, pour moi c'est vraiment international, mais pour nous tous. Donc ça va être... on doit se battre que les esprits des politiciens restent ouverts, qu'en Flandre, on peut travailler avec des compagnies tchèques, qu'en France, qu'on peut travailler avec des compagnies belges. Donc, ça ne va pas être évident pendant des temps de crise.
Ben, ça sera le mot de la fin qui, on espère, pour le cirque contemporain, tout ça va bien finir. Parce qu'il y a ici, on le voit peut-être, je ne sais pas quelles sont vos impressions sur le festival, mais alors là, un concentré d'énergie folle autour des arts du cirque.
Quand je croise tout le public ici, les gens, les artistes, il y a une énergie énorme, super. Je suis sûr et certain que ça va quand même agrandir. Donc.
Sarka?
Yeah, that's true. This is a fantastic place. It's absolutely amazing. It's like for me, this is a dream, you know, to have this kind of center and this opportunity. So this is fantastic opportunity, and for me, it's fantastic to see Zianka, future artist, an exchange with, you know, with really recognized, well-known companies, and this is fantastic place you've got here. Great. And I'm really happy that I'm here, and I will be back in 1 year, I'm sure.
Donc Sarka disait qu'elle était évidemment très contente d'être ici, que c'était très excitant parce que c'est un endroit de rêve, à la fois le festival mais aussi ce centre qui vient d'ouvrir, et ça fait rêver évidemment beaucoup d'opérateurs dont elle, qui aimerait bien avoir un petit équivalent en République tchèque. L'énergie déborde, elle rappelait au combien on voyait de jeunes aussi, de jeunes circassiens, de futurs artistes qui traînaient leur guêtre ici et qui faisaient des rencontres et qui étaient passionnés. Donc on voit l'énergie du festival, et elle disait sans doute l'année prochaine elle revient, c'est sûr.
le mot de la fin, le cirque, l'énergie du festival, ça te parle?
Oui, et puis c'est aussi pour ça qu'on revient tous, je pense. Il y a énormément de professionnels qui se retrouvent ici pour à la fois la qualité artistique de la programmation, la qualité des spectacles, la qualité des rencontres professionnelles, qu'elles soient formelles ou informelles d'ailleurs. Beaucoup de choses se passent autour, à la sortie des chapiteaux, dans les restaurants de la ville. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance particulière et l'envie toujours d'être là. Donc moi, en plus, représentant à ce micro Hors les Murs, je sais que Hors les Murs veut continuer sa collaboration avec Sirka pour continuer à présenter les projets de création de demain, pour continuer à valoriser tout le travail qui est fait à la fois des opérateurs comme le festival, ce festival-là, mais aussi tous les autres en France et à l'étranger, et les créations des artistes de l'avenir, du futur.
Ben merci beaucoup à vous trois. Merci Johan Flock en particulier pour la traduction improvisée. C'est gentil. Et puis je sais que vous avez encore quelques réunions. Bon travail, bon festival, et peut-être à l'année prochaine. Merci à vous.
Merci, au revoir. Thank you very much.
Au revoir, merci.
Voilà, les rencontres en direct de 12h à 14h ont largement dépassé leurs horaires, mais quand on aime, on ne compte pas. Et les prochains rendez-vous en direct sur Radio Sirka, eh ben, ça sera à partir de 18h, les rencontres du public avec les artistes animés par Christian Lucas. Ce soir, l'invité unique, c'est Joanne Le Guilherme, à ne pas rater. Venez voir. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, eh bien, il y a toujours Radio Sirka 103.5 pour que vous puissiez écouter. Vous rappelez aussi que Radio Sirka a un répondeur. Vous pouvez laisser vos messages, vos impressions sur le festival, vos coups de gueule, vos coups de cœur, sur les spectacles, sur le lieu, sur l'ambiance. N'hésitez pas. Il y a donc le répondeur au 05 62 61 65 50. Et puis pourquoi pas aussi laisser vos impressions sur Radio Sirka et ses programmes. Voilà. 18h, les rencontres artistiques en direct sur Radio Sirka, et à 19h, une émission avec des bénévoles anciens, actuels du festival. Voilà, à plus tard sur Radio Sirka en direct. Ciao.